C'est ça.
Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Gervais. Aujourd'hui, 1er juin, par visioconférence. Alors, je vais débuter en prenant les présences. Guillaume Vermette.
Présent.
Myriam Goulet.
Présente.
Diane Bilodeau.
Présente.
Denise Lapierre.
Présent.
Diane Pouliot.
Présente.
Sylvie Lemelin.
Présente.
Alors, avec la présence de Joanne Sims comme directrice générale et moi-même, Manon Goulet, comme maire. Alors, on va ouvrir au point 1, l'ouverture de l'Assemblée. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal du 4 mai 2021 et dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 21-05-14. Point 4, dossier d'administration. 4.1, compte et adoption. 4.2, remboursement anticipé d'un montant de 75 500 relatif à un emprunt échéant le 14 juin 2021 pour la portion renouvelable du règlement d'emprunt 272-06. 4.3, affectation des excédents d'opération du service d'Acaduc pour les exercices 2018, 2019 et 2020. 4.4, affectation des excédents d'opération du service d'égout pour les exercices 2018, 2019, 2020. 4.5, rapport de la mairesse pour l'année 2020. 4.6, utilisation du vote par correspondance électeur-électrice non domicilié sur le territoire de Saint-Gervais. 4.7, utilisation du vote par correspondance pour électeurs-électrices de 70 ans ou plus le jour du scrutin pour l'élection du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. 4.8, affectation d'excédents de fonctionnement. 4.9, avis de motion, projet de règlement 354-21, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire. 4.10, dépôt du projet de règlement 354-21. Alors, c'est la suite de 4.9. 4.11, mandat d'arpenteur et notaire, servitude Hydro-Québec sur la rue du Repos. Au point 5, dossiers généraux. 5.1, les communiqués. 5.2, unis pour la faune. En fait, là, c'est toute la liste des communiqués, en fait, là, ce que je vois. Fait que je... Et 5.5, ce serait le point réponse aux demandes écrites des citoyens, demande d'une citoyenne. Alors, on traitera ça à ce moment-là. Je suis à l'énumération de l'ordre du jour. 6, dossiers services publics. 6.1, adjudication de contrat, lignage des rues. 6.2, adjudication de contrat, panneaux de rue. 6.3, adjudication de contrat, entretien de pelouse, parc historique, promenade des Sœurs. 7, dossier hygiène du milieu. 8, dossier loisirs, culture, développement communautaire. 9, développement d'intervention des membres du conseil. Période d'intervention, pardon. 10, dossier urbanisme, environnement. 10.1, avis de motion, règlement 355-21 concernant l'attribution et l'affichage des numéros civiques. Et à 10.2, qui est la suite, dépôt du premier projet de règlement 355-21. 10.3, avis de motion, règlement 356-21 concernant constituant un comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement numéro 143-87. 10.4, c'est le dépôt du projet de règlement 356-21. Et 10.5, PIA, rénovation des galeries extérieures devant et derrière la maison au 38 premier rang Est. 11 dossiers VARIA. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose au VARIA? Pour le moment, il n'y a rien d'inscrit. 12, levée de l'Assemblée. Donc, c'est l'ordre du jour qui est proposé dans cette séance du 1er juin. Vous devez avoir besoin, nous sommes rendus au point 2, là, approbation de l'ordre du jour. Qui est prêt à approuver l'ordre du jour tel que je viens de l'énumérer?
Diane Bilodeau appuie.
Myriam Second.
Merci. Alors, Joanne, je vais toujours te laisser un petit délai là, pour enregistrer tes...
C'est parfait. Merci.
3, adoption du procès-verbal du 4 mai, en fait. Là. C'est ça. 4 mai 2021. Et dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 210-514. Alors, attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 et du procès-verbal de correction de la résolution 210-514, attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal et du procès-verbal de correction, proposé, appuyé, résolu que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 4 mai tel que présenté et déposé à la table du Conseil ainsi que le procès-verbal de correction.
Diane Pouliette se propose.
Denise Seconde.
Parfait.
Au point 4, dossier administration. 4.1, compte et adoption. Donc, pour les comptes du mois de mai, je vais vous les énumérer. Vous avez pris connaissance aussi du détail qui a été fourni par la directrice générale. Donc, en administration générale, si j'y vais sur le plan global, on a un montant de 15 220 et 72. En santé publique, 3 558 et 53. En transport routier, 13 346 et 41. En hygiène du milieu, 34 835 et 61. En santé et bien-être, 2 321. Aménagement et urbanisme, 3 346 et 15. Loisirs et culture, 16 784 et 48. Frais de financement, activités financières, aucune dépense, pour un total de 89 412 et 90. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions sur les comptes qui avaient été présentés là, dans les détails. Des questions?
Non.
Non, c'est bon.
Non.
Alors, s'il n'y a pas de questions, puis êtes-vous en accord avec la résolution, la proposition? Je vais avoir besoin de...
On propose.
Merci.
Sylvie Seconde.
Donc, je pense que j'ai entendu Myriam pour seconder. Donc, Guillaume propose, Myriam seconde.
C'est beau.
4.2, remboursement anticipé d'un montant de 75 500 relatif à un emprunt échéant le 14 juin 2021 pour la portion renouvelable du règlement d'emprunt 272-06. Donc, si je ne me trompe, ça concerne l'autopont. Dans le fond, la fin de celui qui est non renouvelable, là, celui qui est terminé, c'est l'autopont. Puis, il y avait une deuxième partie aussi de mise aux normes là, du réseau d'aqueduc. Si je ne me trompe pas, Joanne.
C'est bien, c'est exact.
Alors, attendu que les derniers exercices financiers 2020 confirment un excédent de fonctionnement important pour l'opération du service d'aqueduc, attendu que la municipalité décide d'utiliser les excédents de fonctionnement accumulés de l'opération du service d'aqueduc pour rembourser une partie de la dette. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu d'affecter une somme de 75 500 provenant des excédents affectés aqueduc au remboursement de la dette renouvelable au 4 juin 2021 d'une partie du règlement 207-06. Et d'aviser le ministère des Finances directement, direction du financement à long terme de la gestion des risques, par écrit accompagné d'une copie certifiée conforme de cette résolution afin de confirmer le paiement de ce financement pour que le ministère mette à jour leur registre de la dette municipale et fermer le dossier. Donc, Joanne, je veux juste, il y a juste une petite chose qui m'a accrochée quand on parle du 4 juin.
C'est
14 juin. C'est 14 juin, hein, il y a un petit côté, là.
Oui, s'il vous plaît.
Alors, on va la corriger parce que c'est dans le titre principal de la résolution, c'est 14 juin qui est inscrit.
Je voudrais aussi mentionner copie certifiée, ça doit être EE.
Oui.
Oui. Oui, merci.
Alors, j'ai fait lecture de la résolution. Est-ce que si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Dans le fond, c'est qu'on réglerait cette dette-là là, au lieu d'aller en refinancement.
Diane Bilodeau.
Myriam propose, que j'ai entendu, puis Diane Bilodeau seconde. Ça vous va? OK. Ça va, Joanne?
Oui, merci.
4.3, affectation des excédents d'opération du service d'aqueduc pour les services 2018, 2019, 2020. Donc, attendu que les exercices financiers se terminant au 31 décembre 2018, 2019 et 2020 confirment un excédent de fonctionnement pour l'opération du service d'aqueduc, attendu qu'une gestion financière prudente et responsable implique que la municipalité prévoit des fonds, des réserves et des affectations d'excédents de fonctionnement pour faire face à des situations exceptionnelles et imprévues. Attendu que les résidents desservis par les services d'aqueduc ont contribué pendant ces années aux coûts reliés aux opérations et que ceux-ci ont généré des excédents, il est proposé, appuyé et résolu, d'affecter une somme de 202 000 provenant des excédents non affectés accumulés à un excédent affecté aqueduc au poste budgétaire 59-130-10. Donc, Oui, Guillaume propose.
Sylvie seconde.
Sylvie seconde. Donc, on prend une somme d'un montant de 202 000, puis on l'envoie, puis on l'affecte là, comme un peu, je ne peux pas dire une réserve, mais c'est un fonds affecté à Queduc. Qui servira à des imprévus, comme on dit, des dépenses exceptionnelles. 4.4. Affectation des excédents, cette fois-ci, d'opérations du service d'égout pour les exercices 2018, 2019, 2020. Attendu que les exercices financiers se terminant au 31 décembre 2018, 2019, 2020 confirment un excédent de fonctionnement pour l'opération du service d'égout. Attendu qu'une gestion financière prudente et responsable implique que la municipalité prévoit des fonds, des réserves, des affectations, d'excédents, de fonctionnement pour faire face à ces situations exceptionnelles et imprévues. Attendu que les résidents desservis par les services d'égout ont contribué pendant ces années aux coûts reliés aux opérations et que ceux-ci ont généré des excédents, il est proposé, appuyé et résolu d'affecter cette fois-ci une somme de 91 100 $ provenant des excédents non affectés accumulés à un excédent affecté égout au poste budgétaire 59-130-30.
Denise propose.
Diane Pouliotte seconde.
Merci.
Parfait. Merci.
Donc, je cherchais mon rapport. Je ne sais pas si je pourrais le. Il me semble que j'en avais une copie. Je ne l'ai pas ici. Je ne sais pas, Joël, si tu peux le diffuser en direct. Là,
ça ne sera pas bien, non?
Mais garde-le ici, excuse-moi. Je l'ai dans ma petite pile ici, là. Parfait. Alors, comme la loi semble exiger, je vais vous faire le rapport une fois par année, en juin. Au plus tard, en juin, le maire doit faire la lecture d'un rapport pour l'année précédente. C'est souvent, ça fait suite au dépôt des... En fond, c'est un rapport annuel là, de un portrait de l'ensemble là, de ce qui s'est passé en 2020. Donc, je vais débuter ça. Chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Gervais, afin de se conformer aux dispositions du Code municipal du Québec et plus particulièrement à l'article 176.2.2, il est du devoir de la mairesse de faire rapport aux citoyens des faits saillants et du rapport financier pour l'exercice financier terminé le 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du rapport du vérificateur externe dans le cadre d'une séance ordinaire du Conseil tenue au plus tard en juin. Ainsi, au nom du conseil municipal, c'est avec plaisir que je vous présente ce rapport. Celui-ci fait le constat de la situation de la municipalité et expose les réalisations de 2020 telles que vérifiées par la firme Lemieux-Nollet, comptable professionnel agréé. Les états financiers ont été déposés aux membres du conseil mardi le 4 mai 2021 dernier. L'exercice financier terminé le 31 décembre 2020 a permis de dégager un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 664 159 $. Une partie de cet excédent de fonctionnement a été affectée pour l'aqueduc et les égouts et le solde demeure dans le surplus non affecté. Les surplus nous permettront de devancer les projets du PTI de 2022 vers 2021. Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 3 317 963. L'excédent de l'exercice provient majoritairement des revenus non budgétés en lien avec l'aide financière due à la pandémie, octroyée par le gouvernement du Québec de 116 324, des subventions diverses de 67 530, des revenus supplémentaires de taxation en droit de mutation, en taxation supplémentaire à la suite de rénovations ainsi que de nouvelles constructions totalisant 43 230. La dotation spéciale du fonctionnement du gouvernement du Québec de 18 408 vient s'ajouter aussi pour 2020. La municipalité a vendu deux terrains pour un montant de 97 849 $ en 2020. devons également tenir compte des dépenses prévues en 2020 non effectuées en raison de la pandémie, dépenses moindres que celles planifiées, 329 417. Les cas positifs en lien avec les amortissements et le remboursement capital, 36 543. Et finalement, quelques ajustements divers, moins 45 142. L'administration générale a vécu plusieurs modifications, des départs et arrivées de ressources, dernier élément non négligeable qui a influencé également les résultats de 2020. Les charges totales de 2020 sont de 3 032 152. La distribution des dépenses par secteur est principalement de 20 % à l'administration générale, 12 % à la sécurité publique, 19 % des dépenses liées au transport, 14 % à l'hygiène du milieu, 4 % à aménagement et urbanisme, 9 % à loisirs et culture, 2 % frais de financement et 20 % amortissement des immobilisations. Situation actuelle de la municipalité de Saint-Gervais. L'année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale qui aura interpellé l'humain et qui aura ralenti et paralysé toute la planète. Cet événement nous a plongés dans une nouvelle réalité, nous forçant ainsi à adapter nos comportements et nos habitudes de vie. Les citoyennes et citoyennes de Saint-Gervais ont su faire preuve de résilience et de solidarité. Nous les encourageons à poursuivre leurs efforts. En plus d'appliquer les mesures gouvernementales de santé publique, de l'énergie a été consacrée à renouveler l'équipe administrative de la municipalité. Les documents en lien avec l'attribution des contrats 2020, la rémunération des élus et les états financiers 2020 sont tous disponibles sur le site Internet de la municipalité au www.saintgervais.ca. À travers ce tumulte, la municipalité a tout de même réalisé des projets. Voici en bref ce qui a retenu l'attention en 2020. Ressources humaines. Plusieurs départs se sont succédés au niveau des employés municipaux et ont permis à la municipalité de réévaluer les postes à combler et à trouver le personnel qualifié. Notre principale priorité, en plus du fonctionnement municipal, est de bien répondre aux demandes citoyennes et ainsi bien diriger leurs demandes. Pour ce faire, nous devions revoir la structure même de l'organisation afin de recruter les bonnes personnes et d'être aussi proactifs avec la rétention du personnel déjà en place. Ensuite, mise en application du programme de gestion des actifs. L'intégration de la gestion des actifs dans notre mode de fonctionnement s'est poursuivie. Cette idée de mise en œuvre de saines pratiques de gestion des actifs nous permettra de poser des actions concrètes au moment plus opportun. Parmi les activités priorisées, l'inspection des poteaux incendies, bornes fontaines, les ponceaux des vannes de queduc et finalement l'auscultation des chaussées sur 44 km. La préservation des infrastructures municipales est une obligation pour la pérennité de la municipalité. Politique famille aînée. La municipalité a procédé au lancement le 14 octobre 2020 dernier de la mise à jour de la politique famille aînée. Les actions inscrites au plan d'action en lien avec la dite politique visent à améliorer la qualité de vie de toute la population et cela pour les 5 prochaines années. Projet réalisé en 2020, réfection. En 2020, quelques projets ont été réalisés, notamment la réfection d'une partie du deuxième rang ouest, 92 500, et la prolongation des services de l'aqueduc et de l'égout sur une partie de la rue du Repos pour un montant de 279 000. Acquisition. La municipalité a obtenu les autorisations requises par la Commission de la protection du territoire agricole et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la partie du lot 5-462-357. Elle s'est portée acquéreur en décembre 2020 du terrain du développement La Pierre pour la réalisation du projet phase 3. Les démarches pour la continuité du projet s'effectueront en 2021 dans le but de la réalisation de l'ensemble résidentiel en 2022. Outre la réalisation de ces projets, des efforts ont été investis pour les loisirs. Deux demandes de subvention ont été faites en lien avec le centre socioculturel. La première a été déposée en février 2020 et fait suite au dépôt de l'étude concernant la réfection du centre réalisée en 2018. Et pour répondre à des besoins toujours grandissants dans le milieu des loisirs et des espaces communautaires et d'accueil, une deuxième demande a été faite pour le réaménagement et l'agrandissement du centre. La première a été refusée en décembre 2020 et nous sommes toujours en attente de la réponse pour la deuxième. Un mandat a été donné à l'unité régionale de loisirs et de sports en Chaudière-Appalaches, l'URLS, pour analyser le déploiement des services en loisirs publics de la municipalité. différentes méthodes d'intervention municipale en loisirs et culture ont été analysées, soit le faire seul, le faire avec ou le faire faire. Actuellement, la municipalité utilise le mode d'intervention de faire faire, c'est-à-dire qu'elle délègue à la Corporation des loisirs l'entière responsabilité des loisirs et culture de la municipalité. La structure proposée par l'URLS propose un panier de services en loisirs et culture dont la gestion financière serait dirigée par la municipalité. Plusieurs avantages sont attribués à cette stratégie, dont l'efficacité et la durabilité à long terme, considérant que les rôles de chacun sont bien établis. À la suite de cette recommandation, des discussions ont eu lieu entre la municipalité et la Corporation des loisirs afin de convenir et de consolider la structure administrative de la municipalité dans les prochaines années et par la suite, revoir l'entente entre les loisirs et la municipalité. Piscine. Un audit de sécurité de la piscine a été effectué par la société de sauvetage pour inspecter les lieux selon la réglementation sur la sécurité dans les bains publics. Selon le rapport, le lieu de baignade pourra être exploité de manière sécuritaire pour la prochaine saison 2021. Certains aspects devront faire l'objet de correctifs immédiats ou l'objet d'une planification à moyen terme. La clôture sera remplacée avant l'ouverture de la piscine, je pense que c'est déjà fait à l'heure où on se parle, à l'été 2021, afin de respecter les normes de l'enceinte de la piscine. Ensuite, projet de regroupement en sécurité incendie. Bien que les membres de notre conseil aient approuvé les conclusions de l'étude réalisée en 2020 de la mise en commun des services en sécurité incendie, selon l'option régie, les élus ont convenu de ne pas poursuivre les travaux de réflexion en raison de la localisation des municipalités participantes trop éloignées, Saint-Michel et Beaumont. Votre mairesse était l'instigatrice de ce projet dans lequel 7 autres maires du nord de Bellechasse avaient initialement démontré de l'intérêt. Après 2 années investies en réunion avec une étude à l'appui, il est dommage de ne pas avoir pu aller plus loin pour valider l'option proposée. Cette avenue prometteuse sur plusieurs plans aurait permis d'optimiser les services incendies en ressources et en équipement. Urbanisme. L'année 2020 aura aussi été un renouveau pour le département de l'urbanisme à Saint-Gervais. Nous avons recruté un urbaniste qui sera appelé à aider au développement en plus de répondre aux demandes de citoyens. Famille. La municipalité a mis en place un programme de soutien aux utilisateurs de couches lavables dans le but de soutenir les nouveaux parents, leur offrant un remboursement de la moitié du prix d'achat avant taxe d'un ensemble de départ de 20 couches lavables jusqu'à un maximum de 100 $ par enfant. Conclusion. Le rapport annuel de l'auditeur stipule que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La situation financière de la municipalité de Saint-Gervais est plus qu'enviable. En conclusion, je tiens à remercier les membres du conseil et de l'administration municipale pour les implications et le travail accompli tout au cours de l'année. J'inclus aussi tous les employés dans ces remerciements-là. Non seulement vous avez à cœur de bien servir la population de Saint-Gervais, mais vous le faites avec professionnalisme, diligence et respect. Nous devons, comme conseil, de souligner la grande résilience de nos citoyens et citoyennes au cours des derniers mois. La pandémie et la réorganisation des ressources humaines des bureaux municipaux ont suscité de nouvelles façons de faire pour tous. J'espère que les informations vous auront permis de mieux connaître la situation financière de votre municipalité. Alors, ça complète, et je vais ajouter l'attribution des contrats qui va compléter ce rapport-là. Donc, il y a une partie là, des contrats qui ont été attribués en 2020. Donc, première partie, liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés à un même fournisseur. Donc, on a les entreprises lévisiennes incorporées pour un montant de 87 552,76. On a Excavation Gérard Pouliot incorporée pour un montant de 259 760,50. Groupe Ultima incorporé Assurance pour 64 327 $. MRC de Bellechasse, cote-part plus collecte supplémentaire, montant de 425 598 $. Ministère de la Sécurité publique, la Sûreté du Québec, pour un montant de 198 358 $. Et Rob Godbout, notaire en filéo commis pour la vente du terrain de développement à la pierre, 160 000 $. En deuxième partie, liste des contrats qui comportent une dépense de plus de 2 000 $ et plus, accordée à un même fournisseur et dont le total dépasse 25 000 $. Donc, Ciment Québec incorporé, 33 195 $. Hydro-Québec, sous-traitance des ouvrages de traitement d'eau, 58 284 $. Mario Coulombe, 31 500 $. Hydro-Québec, 49 911 $. Les loisirs de Saint-Gervais, 208 287 $. MRC de Bellechasse, divers services, comme le reprofilage, exemple, le reprofilage de la rue du Repos, 52 327 $. Philippe Gosselin, associé limité, 46 028 et 67. Et Celle Warwick, Québec incorporé, 28 582 et 80. Au niveau de la rémunération des élus, conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le traitement de base de la mairesse pour 2020 a été de 11 103 et 24 imposables, et le traitement de base des conseillers a été de 3 804 sous imposables. À cela s'ajoute une allocation non imposable pour les frais de représentation égale à la moitié de la rémunération de base. Alors, ça fait le tour du rapport de la mairesse. Alors, si on continue, 4.6. J'espère que je vous ai tous encore avec moi. Là. J'aurais aimé ne pas être obligée de vous faire lecture de tout ça, mais je pense qu'en même temps, ça résume bien notre année 2020. Parce que pour une année qui a été particulière pour toutes les municipalités, on peut quand même être fiers des réalisations qu'on a faites malgré ce contexte-là qui n'était pas facile. 4.6 maintenant, si je continue notre ordre du jour, utilisation du vote par correspondance électeur, électrice non domiciliée sur le territoire de Saint-Gervais. Donc, vous savez tous que les élections auront lieu cette année, le 7 novembre 2021. Alors, il y a des dispositions au niveau de la loi, au niveau du ministère des Affaires municipales. Alors, je vais vous lire la résolution. Attendu qu'en vertu de la disposition de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir des modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard, le 15e jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Donc, dans un contexte comme ça, il est proposé, appuyé et résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Donc, peut-être petite précision, puis Joanne, tu pourras peut-être me corriger, là, c'est que ça n'oblige pas ces personnes-là à voter par correspondance s'ils ne le désirent pas. Donc, ces personnes-là pourraient le faire en adoptant une résolution comme ce soir. Ça permet à ces gens-là, non domiciliés, de prévaloir d'un vote par correspondance. Mais si elles désirent se présenter le jour du scrutin, elles pourront maintenir ce privilège. C'est bien ça, Joanne?
Exact.
Parfait. Alors, si vous êtes en accord avec cette disposition-là que la loi nous permet, la loi sur les élections et les référendums, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur.
Tiens, Pouliot propose.
Denis, second.
Ça va, Joanne?
Oui.
4.7, on est toujours dans le domaine des élections. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans et plus cette fois-ci, pour le jour du scrutin, pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Alors, attendu que les élections générales municipales auront lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, attendu que le directeur général des élections ait dicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la loi du Québec 2021, C18, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Et le règlement sur le vote par correspondance. Attendu qu'en vertu de du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Attendu que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur. Attendu qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie d'idimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Donc, il est proposé, appuyé et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale, qui est âgée de 70 ans ou plus le jour du scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales, de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Donc, ça aussi, c'est la même chose que la résolution précédente, que la personne de 70 ans ou plus qui voudrait, elle, se prévaloir du privilège d'aller voter au scrutin, sur place, le jour de l'élection, n'est pas tenu de voter par correspondance. Cette résolution-là ne la lie pas, ne l'oblige pas à le faire par correspondance.
Guillaume, Popo.
Guillaume?
Réam, seconde.
Merci. En fait, c'est la COVID-19, comme je l'expliquais, qui apporte ces particularités-là en préparation des élections qui auront lieu en novembre. 4.8, affectation d'excédents de fonctionnement. Alors, tantôt dans mon rapport, vous avez entendu qu'on avait des excédents de fonctionnement. Attendu que la municipalité de Saint-Gervais a déposé le rapport des états financiers au 31 décembre 2020 à la séance du 4 mai 2021. Attendu que la municipalité cumule des excédents de fonctionnement à des fins fiscales au cours des 4 dernières années. Attendu que la municipalité a déjà prévu des sommes pour la réalisation et l'entretien de ses infrastructures et de ses équipements dans son programme triennal d'immobilisation 2021 à 2023, déposé à la séance du 15 décembre 2020. Attendu que la municipalité a prévu dans le programme triennal d'immobilisation les sommes pour les projets 2022, tels que la réfection du revêtement extérieur du centre de la petite enfance, les travaux d'entretien extérieur d'urgence du presbytère, qui inclut de la peinture et réfection de toiture, le réaménagement de la porte arrière du camion incendie, l'aménagement du parc de la rue du Repos et de la mise à jour de l'équipement à l'usine de traitement des eaux usées. Donc, proposé, appuyé, résolu de devancer les projets mentionnés, déjà inscrits au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2022, donc de réaffecter ces sommes prévues en 2022 au budget de 2021, que le Conseil affecte un montant maximal de 400 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté aux projets ci haut mentionnés, et résolu de devancer à l'exercice 2021 les projets ci haut mentionnés déjà inscrits au programme triennal d'immobilisation 2021-2023, que ces projets seront financés à même l'excédent non affecté de la municipalité. Donc, quelque chose qui c'est quelque chose qui a fait l'objet de discussions entre les élus. Je pense que de devancer tout simplement les projets vont nous permettre d'utiliser ces sommes-là à bon escient pour des projets qui étaient déjà prévus, inscrits, et non pas des projets qui ont de dernière minute, là, mais des choses qui étaient déjà planifiées dans notre plan triennal.
Diane Bilodeau propose.
RM seconde.
Merci. 4.9, avis de motion au projet de règlement 354-21, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire. Donc ici, j'ai un avis de motion qui est présenté. Donc, j'ai besoin d'un élu pour présenter cet avis de motion-là. Guillaume Vermette. Donc, oui. Avis de motion donné par Guillaume Vermette, conseiller, qu'à une prochaine séance de ce conseil sera proposée pour adoption le règlement intitulé Règlement numéro 354-21, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire. 4.10, là, à ce moment-là, fait suite le dépôt de projet de règlement 354-21, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire. Une copie de ce projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire » est remise aux membres du conseil présents. Étant donné que tous les membres du conseil en ont reçu copie, ce règlement ne sera pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté. Alors là-dessus, la directrice générale tantôt nous a fait la mention que le règlement sera déposé prochainement. Mais qu'en fait, la directrice générale nous en a fait un résumé verbal qui touchait en fait l'achat local. Et c'est quelque chose que le gouvernement soumet à l'ensemble des municipalités. C'est comme une politique que le gouvernement a établie pour probablement suite à la pandémie. C'est ce qu'on a pensé. Je n'ai pas toute l'introduction, la mise en place de tout ça. Peut-être, Joanne, tu pourrais compléter s'il y a quelque chose qui manque là, dans mes explications.
Dans le cadre de l'adoption du projet 67, toutes les municipalités doivent prévoir des mesures qui favorisent des biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Dans le fond, c'est dans le but d'encourager les produits québécois. Ça concerne la passation de tout contrat qui comporte une défense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique. C'est une obligation qui est pour une période de 3 ans. Alors, ça résume en général le programme de changement de règlement de gestion contractuelle.
La documentation est envoyée.
Oui.
L'ensemble de la documentation est envoyée aux élus. 4.11, mandat panteur géomètre et notaire, servitude Hydro-Québec, rue du Repos. Alors, donc, attendu que la municipalité agit en tant que promoteur en procédant à la mise en vente des terrains. Donc, j'ai tous les numéros de lot ici, là, 6-409-288, 6-409-289, 6-409-290 et 6-409-291 sur la rue du Repos pour fin de construction résidentielle. Attendu que ces lots ne sont pas encore desservis par le réseau d'Hydro-Québec. Attendu qu'il y a lieu de mandater un arpenteur géomètre et un notaire afin de préparer les descriptions techniques et les actes de servitude des terrains qui serviront au bénéfice d'Hydro-Québec. Il est proposé, appuyé, résolu, de mandater les firmes groupe VRSB, Arpenteur Géomètre et Goulet-Godbout Notaire et Associés pour la préparation des descriptions techniques et les actes de servitude nécessaires à l'extension du réseau Hydro-Québec pour alimenter les lots que j'ai nommés tout à l'heure sur la rue du Repos.
Madame Goulet, je vais juste repréciser les numéros de lots. C'est 6 429 288. 6 429 289 et 6 429 290 et 6 429 291. Excusez-moi, c'est parce qu'il y avait eu, dans le fond, il ne s'était pas bien dit, là, alors c'était simplement pour ajuster les numéros de l'eau pour être précis là, dans la résolution.
Pas de problème.
Diane Pouliot, seconde.
Donc, on est rendu au point 5 des dossiers généraux et on va introduire ça avec les communiqués au point 5.1. Donc, on va faire l'ensemble des... on va y aller avec des résolutions. Bon, si on y va avec le premier communiqué, je pense, Joanne, je vais te laisser y aller. Puis,
En fait, je vais juste vous dire qu'au niveau du premier communiqué, il provient du ministère des Affaires municipales et d'Habitation. Simplement pour... je vais vous lire la lettre parce que c'est quand même important. Un programme de réfection de la construction infrastructure municipale, requalification du centre socioculturel de Saint-Gervais. Donc, on a eu une lettre de bonification à faire. La présente fait suite à la demande d'aide financière en objet et a pour but de vous informer qu'après son analyse détaillée, celle-ci n'est actuellement pas retenue pour l'obtention d'une aide financière. Toutefois, le ministère est disposé à recevoir tout nouveau renseignement pouvant apporter une bonification à cette demande, ce qui permettrait de revoir l'analyse et pourrait entraîner sa sélection immédiate. Si vous disposez de nouvelles informations, veuillez transmettre par courriel d'ici le 18 juin. Ainsi, votre demande demeure toujours active. Veuillez noter que cette décision ne découle d'aucun jugement défavorable sur le bien fondé de votre projet, mais dû au fait la problématique y étant associée et les disponibilités budgétaires du programme ne permettent pas d'en faire la sélection immédiate. Par ailleurs, le projet de la municipalité tel que déposé semble inclure des espaces à vocation sportive, culturelle et récréative. Ces espaces ne sont toutefois pas admissibles au programme. Si la municipalité souhaite transmettre de nouveaux renseignements pour bonifier sa demande, ceux-ci devront également comprendre les éléments suivants. La vocation principale des espaces du rez-de-chaussée, ainsi qu'une programmation des activités communautaires prévues pour une année type. De plus, je tiens à vous rappeler que les contrats de la construction ne peuvent être octroyés, même sous condition d'obtention d'une aide financière, avant la signature par la ministre de l'autorisation définitive de l'aide financière. De même, les travaux visés par l'aide financière ne peuvent débuter avant cette signature. À défaut de respecter l'une ou l'autre de ces modalités, votre projet ne sera plus admissible au programme. Si vous désirez obtenir plus de renseignements, contactez le chargé de projet. Donc, tout simplement pour résumer que les élus ont décidé là, d'aller de l'avant là, pour bonifier et présenter un nouveau projet, une nouvelle demande et puis s'assurer de respecter les éléments qui ont été demandés là, dans la lettre du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est une information importante à mentionner à tous. La deuxième lettre est elle provient également du ministère des Affaires municipales. C'est concernant le partage de la croissance du point de la taxe de la vente du Québec au niveau de la TVQ. C'est simplement pour aviser que pour l'année 2021, le montant de 17 322 $ de subvention sera attribué à notre municipalité pour le partage de la croissance de la TVQ. Au niveau de la troisième lettre, elle provient de la Commission municipale du Québec. La description, c'est un audit de conformité. Une adoption du budget et adoption du programme triennal d'immobilisation. En fait, c'est que la Commission municipale du Québec va venir auditer la municipalité au niveau de l'adoption du budget qui a été fait en 2021 lors de la séance du 15 décembre 2020 et ainsi que sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation qu'on a fait à cette même séance. Donc, il vérifie tout simplement, il nous demande à l'administration municipale des pièces justificatives confirmant qu'on a bien adopté le budget ainsi que le programme triennal d'immobilisation selon les règles de l'art. Ensuite, la quatrième lettre provient du ministère des Transports. C'est simplement là, pour nous rappeler les recommandations d'activités d'entretien au niveau des ponts municipaux. Et puis nous indiquer là, les directives à suivre pour les prochaines années pour l'entretien et les activités recommandées là, pour l'entretien des ponts de notre municipalité. Au niveau de la cinquième lettre du communiqué, ça provient de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. C'est une demande de soutien à la municipalité de Saint-Damien pour la réadaptation en déficience physique. Je peux vous lire dans le fond la résolution. Ce ne sera pas bien long. Ah, ben malheureusement, elle n'a pas été rédigée, mais en fin de compte, les élus sont d'accord de donner une aide financière au niveau de ce programme-là. Donc, tout à l'heure, on passera en résolution là, ce point-ci. Au niveau de la Fondation d'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est une demande de don. Les élus vont également là, donner un don de 100 $. On va passer la résolution tout à l'heure. Au niveau de la septième lettre, c'est Unis pour la Faune. C'est une demande là, qui a été faite, une résolution d'appui pour Unis pour la Faune pour le projet au niveau de la conservation du climat, de l'amélioration de la qualité des populations de chevreuils. On va passer une résolution tout à l'heure. Et au point 8, c'est l'Union des municipalités du Québec qui présente une adhésion de la déclaration d'engagement Unis pour le climat. On va passer également la résolution tout à l'heure, on va la lire. Au point 9, on a la Fondation d'émergence, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, excusez-moi. Également, on va vous lire tout à l'heure la résolution. Et comme dernier point, on a une demande de subvention, une demande de participation au golf. Là, je ne l'ai pas devant moi, Madame Philippe, pouvez-vous me le...
La lettre?
Oui.
Oh, c'est de la Chambre de okay. Le tournoi de golf pour le 16 juin 2021, en fait, c'est une invitation à y participer ou à y contribuer financièrement.
D'accord. Puis, comme dernière lettre, on a aussi une demande d'une citoyenne que je vais pouvoir vous lire aussi également. Cette lettre-là provient de Mme Lemieux. Elle demande si c'est possible de remettre une pancarte au sud du village afin d'interdire les freins de moteur pour les camions tard le soir et tard la nuit. Il y a plusieurs années qu'il y a déjà eu une pancarte à cet effet et j'ignore pourquoi elle a été retirée. J'ai un sommeil léger, etc. et j'entendais même ce bruit quand j'habitais dans la rue Saint-Eugène. J'imagine que je ne dois pas être la seule personne à entendre ce bruit. Donc, on va faire un suivi sur cette demande au niveau du ministère des Transports, à savoir si c'est possible de mettre une pancarte de sensibilisation à nouveau dans ce secteur-là là, pour les freins moteurs. Donc, ça résume en général les communiqués. J'aimerais qu'on revienne vraiment là, aux résolutions qu'on va adopter dans ces communiqués-là et qu'on les relise, Madame.
Oui, alors on va partir de la correspondance, cinquième correspondance, la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches, même si le libellé n'est pas fait, en fait, c'est d'une demande de soutien financier. Puis, en vertu des échanges qu'on a eus en plénier, les élus étaient favorables à offrir un montant de 200 $ à cette fondation. Alors, dans le fond, le libellé, là, c'est que le conseil municipal accepte de répondre positivement à la demande là, de la fondation et de verser un montant de 200 $. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondeur.
Myriam propose.
Denise, salam.
Parfait. Alors, pour résumer la résolution de la correspondance numéro 6, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui nous sollicite cette fois-ci pour une demande de don dans leur campagne de financement annuel. Alors, encore une fois, les élus étaient favorables à répondre positivement à cette demande-là par un montant de 100 $ qui serait versé à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un proposeur, s'il vous plaît.
Diane Bilodeau propose.
Sylvie Lavelin, seconde.
Parfait. Alors, on serait rendu à la résolution Unis pour la Faune. Donc, eux nous ont envoyé une résolution type, quand même assez longue, mais je vais vous la lire. Donc, appui Unis pour la Faune, amélioration de la qualité des populations de chevreuils. Attendu que la municipalité de Saint-Gervais est une destination de choix pour les amateurs de chasse aux chevreuils et que cette activité est un apport économique important. Attendu que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement, ravages, par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies. Attendu qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâles-femelles. Attendu que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie. Attendu que, selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse aux chevreuils vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019. Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec. Attendu qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu'environ 72 % des chasseurs sont favorables à l'introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté du panache. Attendu que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent entre autres que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable. Attendu que le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, chapitre A-18.1, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources du territoire toute personne ou tout organisme qu'il estime nécessaire. Il est proposé, puis est résolu, que la municipalité de Saint-Gervais appuie l'organisme Uni pour la Faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois, qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie du ministère de la Faune et des Forêts, des Parcs, d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par l'UPF, ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés. Que l'organisme Uni pour la Faune soit dorénavant appelé à participer, à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc, c'est la résolution. Est-ce que j'ai un signeur et un proposant?
Denise propose.
Yann Pouliot, seconde.
Parfait. Ensuite, merci. On passe à la résolution maintenant Unie pour le climat, 5.3. Je me demandais... Oui, OK. Ça, c'est la correspondance numéro 8. Je la cherchais, là. Merci. Je viens de la trouver. Donc, je vous fais lecture, encore une fois, d'une résolution assez longue. Attendu que la déclaration rappelle le rôle du premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et des élus et élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons tous et toutes partie du problème. Nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution. Gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des actions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et de bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. En conséquence, nous, élus et élus de la municipalité de Saint-Gervais, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Gervais adhère à la déclaration d'engagement Unis pour le climat et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec.
Et on me propose.
RM seconde.
La correspondance numéro 9 maintenant. Au point 5.4 de l'ordre du jour, Fondation Émergence, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, je vous lis la résolution, qui est définitivement plus courte cette fois-ci. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité du genre ou de l'expression du genre, de genre. Attendu que le Québec est une société ouverte à tous et toutes, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Attendu que le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Attendu qu'il y ait lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, même si elle est passée, il est proposé, appuyé, résolu, de proclamer le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle. Alors, j'ai besoin d'un proposant et d'un secondeur.
Diane Pouliot, seconde.
Alors, pour la Chambre de commerce, il avait été convenu par les élus en plénier de ne pas donner suite à l'invitation. Il ne semblait pas y avoir donc ce qui était convenu, ce qui était unanime de la part du conseil, c'est qu'il n'y aurait pas de participation, qu'il n'y aurait pas de contribution financière. Et il reste la demande citoyenne qui provient de Mme Guylaine Lemieux par rapport à la sensibilisation de faire des démarches auprès du MTQ pour les freins moteurs. Donc, tout à l'heure, pour compléter ce que Mme Sims a dit, c'est qu'il y aura en même temps la discussion à amener aussi le fait qu'il n'y a peut-être pas juste dans ce secteur-là qui aurait besoin de signalisation pour sensibiliser les conducteurs de camions à ne pas trop utiliser massivement les freins moteurs. Il y a peut-être d'autres secteurs dans la municipalité. Fait que tant qu'à faire la démarche avec le MTQ, on va sensibiliser aussi une partie du rang 3. Puis il y avait les entrées de village aussi qui avaient été discutées. Donc, le conseil est d'accord à ce que Mme Sims fasse la démarche auprès du MTQ. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondeur.
Denise propose.
RM seconde.
Puis en même temps, ben, ça donne la réponse à la citoyenne qui a fait la demande. Ça va?
Oui.
Ça complète les communiqués?
Madame Goulet, est-ce que vous ajoutez le communiqué de monsieur citoyen qui est de remerciement? Est-ce que vous l'ajoutez? En...
Ah oui, bon, alors c'est ça, je peux peut-être... Il y a monsieur Gilles Nadeau dont j'ai reçu, lui, il n'était pas à l'ordre du jour, mais je veux dire, j'ai reçu la lettre aujourd'hui, alors j'ai... Dans le fond, je peux peut-être faire la lecture, si vous êtes d'accord. C'est quand même très bref, mais c'est direct, là. Je veux dire, ça dit ce que ça dit. Alors, c'est daté du 31 mai. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous écrire quelques lignes pour vous remercier de l'hommage que vous m'avez rendu à l'occasion de la semaine de l'action bénévole. Une telle reconnaissance de votre part fait chaud au cœur. Même si on ne fait pas du bénévolat pour recevoir une telle mention, celle-ci m'encourage à continuer d'apporter ma modeste contribution à la vie de notre communauté. Je veux partager cette reconnaissance avec tous les bénévoles de Saint-Gervais qui, chacun et chacune à sa façon, contribuent à dynamiser la vie de tous nos concitoyens et à rendre de précieux services. Merci encore pour cette marque d'appréciation. Veuillez accepter, mesdames, messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs et c'est signé par Gilles Nadeau, un ex-maire de la municipalité, toujours impliqué bénévolement. Alors, il tenait à nous faire part de le fait que le mois dernier, ou il y a deux mois, on a souligné la contribution de quelques bénévoles, une contribution spéciale dans notre municipalité, puis Gilles Nadeau en faisait partie, puis il a pris la peine de nous envoyer une lettre de remerciement. Alors, c'est très bien, merci. Merci, Joanne, de me l'avoir fait penser. Alors, on serait rendu au point 6, c'est ça? Dossier service public, 6.1, adjudication de contrat pour du lignage de rue. Alors, on est rendu cette année à faire le lignage des lignes jaunes et des lignes blanches. Donc, attendu que des travaux de lignage des rues et des stationnements de la municipalité sont prévus au budget 2021, attendu que nous avons 32 km de route à couvrir pour les rangs 1, 2 et la route Arthur et le rang du bras, attendu que nous avons invité 3 compagnies à soumissionner, attendu que nous n'avons reçu une seule proposition tarifaire, attendu que le prix de mentionné est pour les 3 prochaines années, 2021, 2022, 2023. Donc, peut-être qu'on pourrait inverser les 2 derniers attendus. Joanne, peut-être que c'est ça qui était prévu. Petite coquille là, que je me rends compte en passant. Alors, l'entreprise qui a soumissionné, c'est Durand Marquage et Associés. Prix par mètre, excluant les taxes, c'est 21 cents. Alors, conformément au règlement 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire, il est recommandé d'attribuer le contrat à la firme Durand Marquage et Associés Incorporés, unique soumissionnaire conforme. Donc, proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Durand Marquage et Associés le contrat 2021 pour le lignage des rues et des stationnements de la municipalité au coût de 21 cents par mètre pour une somme totalisant 23 149,74 plus les taxes applicables. Et résolu que le poste budgétaire affecté sera le 02-320-00-620-00.
Myriam propose.
Diane Bilodeau appuie.
Merci. Joanne, est-ce que tu sais quand est-ce que c'est prévu que le contrat va être effectué dans notre municipalité? Peut-être les citoyens, c'est ça qui peut les intéresser.
Malheureusement, je n'ai pas de date encore, là, mais on prévoit vers la fin du mois d'août.
Merci.
Joanne, c'est Diane Bilodeau qui appuie.
OK, merci.
6.2, adjudication de contrat panneau de rue. Alors, attendu que l'achat de panneaux de rue de la municipalité de Saint-Gervais sont prévus au budget 2021. Attendu que les panneaux de rue sont endommagés par le temps. Et attendu que la municipalité veut valoriser notre patrimoine et aménager la collectivité de façon conviviale. Attendu que les demandes de soumission ont été faites avec les poteaux et la quincaillerie d'installation. Et attendu que la municipalité a fait des demandes de prix et que 2 soumissions ont été reçues. Donc, les 2 soumissionnaires sont Signalisation Lévis pour une soumission, dans le fond, le prix inclut panneaux, poteaux et quincaillerie, excluant toutefois l'installation et les taxes de 282,25 par unité. Et l'autre soumissionnaire, Qualitech, au montant de 426,80 par unité. Alors, vous voyez, là, on est quasiment double là, pour Qualitech. Alors, conformément au règlement numéro 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire, il est recommandé d'attribuer le contrat à la firme Signalisation Lévis, plus bas soumissionnaire conforme. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Gervais octroie à la firme Signalisation Lévis le contrat 2021 pour l'acquisition de nouveaux panneaux de rue ainsi que de poteaux au coût de 282,25 l'unité plus les taxes applicables. Et résolu que le poste budgétaire affecté sera le 22-355-00-721-00.
Diane Bilodeau propose.
Diane Pouliotte seconde.
Merci. Et on espère que l'actualisation de ce dossier-là, que ça fait quand même un certain temps qu'on discute, se réalise là, d'ici l'automne. Et les esquisses pourront, une fois le contrat, les esquisses, là, on avait pas mal d'idées de ce qu'on désirait, mais que le suivi, tout ça va être fait étroitement avec les élus là, avant de donner le OK pour faire la présentation des nouveaux panneaux. Puis en suivant la recommandation aussi des services incendies pour que les nouveaux panneaux puissent comporter les numéros civiques là, pour les rues transversales. 6.3, adjudication de contrat traitement de pelouse parc historique de la promenade des Sœurs. Donc, Groupe Ferti assurait le traitement de la pelouse allait jusqu'à l'an passé. Et bon, le contrat étant terminé, on est retourné en soumission. Donc, attendu que la municipalité désire faire l'entretien du gazon du parc historique de la Promenade des Sœurs, attendu que 6 traitements de différents engrais seront faits pendant l'été et ce jusqu'à l'automne, attendu que la municipalité a demandé des prix et que 2 soumissions ont été déposées. Donc, les 2 soumissions en question sont ferme rouleau au montant de 585 excluant les taxes et terre honnête qui a soumissionné à 646,20 sous, excluant les taxes aussi. Donc, conformément au règlement 337-18 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle et suivi budgétaire, il est recommandé d'attribuer le contrat à la firme ferme Rouleau et Frères, plus bas soumissionnaire conforme. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité de Saint-Gervais octroie à la ferme Rouleau le contrat 2021 pour le traitement de pelouse au parc historique de la Promenade des Sœurs au coût de 585 $, plus les taxes applicables, et ce, excluant le traitement des mauvaises herbes du pavé. Il est résolu que le poste budgétaire affecté sera 02-701-50-681-00.
Moi, je voulais juste dire que moi, je m'opposais par rapport à l'application d'insecticides et d'herbicides. Je pense que aujourd'hui, pour le traitement de pelouse, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'utiliser ces produits-là. En étant conscient qu'on a adopté une résolution pour le climat et l'environnement, bien, je pense qu'il y aurait d'autres alternatives que d'utiliser ces produits-là. C'est pour ça que je m'oppose au traitement d'appel.
D'accord. Alors, le vote est demandé. Quels sont ceux qui sont pour la résolution?
Denise est pour.
Diane Bilodeau est pour.
Sylvie est pour.
Diane Pouliot est pour.
Alors, tout le monde s'est prononcé?
J'ai pas entendu Myriam, excusez-moi.
Ah, Myriam pour.
OK. Merci.
Donc, Guillaume maintient son dans le fond, est en position contre. Alors, ça va être une résolution adoptée à majorité. Alors, on serait rendu au point 7, hygiène du milieu. Il n'y avait pas de point particulier. Point 8, dossier loisirs, culture et développement. Il n'y avait pas de point particulier, mis à part la correspondance tout à l'heure avec laquelle on fait un lien, là, où est-ce qu'on donnera suite à la lettre de demande de bonification. Point 9, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'à cette étape-ci de la séance, il y a des gens qui voudraient prendre la parole ou nous parler?
C'est juste pour dire, Manon, qu'il n'y a pas eu de proposeur puis de secondeur pour
merci.
Le
merci.
Contrôle. Non.
Bien bientôt va proposer.
Merci de nous ramener, Guillaume.
Diane Pouliot seconde.
OK, donc les deux Diane. Diane Bilodeau propose et Diane Pouliot seconde.
Merci.
Merci. OK, alors, donc, 10, on est rendu à, voyons, point 10, dossier urbanisme et environnement maintenant. Alors, 10.1 et 10.2, en fait, ce sont des. Ça concerne le projet de règlement, l'adoption d'un règlement 355-21. Ce serait un nouveau règlement, dans ce cas-ci, concernant l'attribution et l'affichage des numéros civiques. À Saint-Gervais, notre urbanisme nous a fait remarquer qu'on n'avait pas de règlement par rapport à ça. Alors, par rapport à différentes problématiques qu'on rencontrait, on a jugé bon d'émettre un règlement sur l'attribution et l'affichage des numéros civiques. Alors, il y a un avis de motion ici qui doit être présenté par un élu. Donc, quel sera l'élu qui présentera l'avis de motion sur ce règlement-là?
Je peux le faire, Diane Bilodeau.
Diane Bilodeau, OK. Donc, avis de motion est présenté par Diane Bilodeau, conseillère, qu'à une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption le règlement intitulé Règlement 355-21 concernant l'attribution et l'affichage des numéros civiques. 10.2, c'est le dépôt du premier projet de règlement 355-21 qui concerne, je ne répéterai pas. Alors là, ici, c'est le dépôt de. Ça va prendre. À ce moment-là, ça prend une résolution quand même.
Non, pas du tout.
Pas pour le dépôt du premier projet?
Non.
D'accord. Alors, l'avis de motion est lancé pour ce règlement-là. J'enchaîne tout de suite à 10.3. Avis de motion, maintenant, ça concerne le règlement 356-21 qui constitue un comité consultatif d'urbanisme et qui viendrait abroger le règlement numéro 143-87. Alors, vraiment une remise à jour de notre règlement du CCU qui datait de 87. Alors, ici aussi, j'ai besoin de... On lance 10.3, 10.4 de notre ordre du jour. Là, c'est étroitement lié. 10.3 étant l'avis de motion sur ce règlement-là. J'ai besoin d'un élu pour l'avis de motion.
Myriam.
Bon. Avis de motion est, par la présente, donné par Myriam Goulet, conseillère, quand une prochaine séance de ce conseil sera proposée pour l'adoption de le règlement intitulé Règlement 356-21, constituant un comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement numéro 143-87. Donc, 10.4, c'est dans le fond, c'est la copie du premier projet de règlement. Une copie de ce règlement 356-21 constituant un comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement numéro 143-87 est remise aux membres du conseil présent. Étant donné que tous les membres du conseil en ont reçu une copie, ce règlement ne sera pas lu lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté. Donc, tous les élus ont reçu, autant pour les numéros civiques que pour le CCU, des copies de ces règlements-là pour étude. Et on continuera là, d'ici la prochaine séance du conseil, on continuera d'apporter ces règlements-là et d'y apporter des modifications au besoin. On est rendu maintenant au dernier point de notre séance, 10.5, qui concerne le PIA. Ça concerne des rénovations pour des galeries extérieures devant et derrière de la maison au 38 premier rang Est. Alors, attendu que la demande reçue pour les travaux de rénovation sur la résidence du 38 premier rang S et que celle-ci doit être soumise à une approbation par le conseil municipal, puisqu'un règlement sur un plan d'implantation et d'intégration architecturale affecte cette zone. Les travaux demandés consistent à refaire les galeries avant et arrière et installer de nouveaux garde-corps de couleur bois naturel avec les barotins métalliques noirs. Attendu que la présente demande est la suite d'une demande de PIA 2016. Donc, il a fait l'objet d'une résolution antérieure, la résolution 161-008, qui a fait l'objet d'une recommandation favorable. Attendu que l'on retrouve actuellement plus de trois couleurs extérieures sur l'ensemble du bâtiment. Attendu que les garde-corps proposés introduisent une autre couleur extérieure sur le bâtiment. Et attendu que l'article 3.3.7 couleur du règlement 352-21 mentionne qu'il faut favoriser l'utilisation d'un maximum de trois couleurs sur l'ensemble d'un bâtiment. Et attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet et recommande l'acceptation des travaux tels que présentés avec condition. Alors là, peut-être que Joanne, j'ajouterais, a étudié le projet le 25 mai dernier. Là, j'ajouterais la précision là, lors de sa séance. Là. Peut-être une précision que j'apporte là. Il est proposé, appuyé et résolu que d'accepter la demande du PIA 221-03 au 38 premier rang S pour réaliser les travaux proposés avec les conditions suivantes. Rénovation des galeries avant et arrière et installation de garde-corps en s'assurant de s'en tenir à un maximum de trois couleurs extérieures, soit le blanc, le noir ou la couleur beige du revêtement extérieur de la résidence. Le comité consultatif d'urbanisme suggère l'utilisation de la couleur blanche pour les éléments en bois des garde-corps et la couleur beige du revêtement extérieur de la résidence pour le fond de galerie. Alors, dans le fond, c'est une acceptation avec des conditions. Donc, c'est sûr que les gens seront informés par l'urbaniste de la réponse là, des membres du conseil, là, dépendant si on va de l'avant avec la... Dans le fond, ce soir, on a à se positionner comme conseil. Est-ce qu'on va de l'avant avec la recommandation intégrale du CCU? Avec les conditions émises.
Oui, moi, je suis d'accord.
Oui. Oui. Donc, Guillaume propose?
Oui.
Puis, j'ai entendu Diane Pouliot.
Oui, Diane Pouliot.
Oui, OK. Donc, Diane Pouliot, seconde. Alors, on aurait fait le tour. Il n'y avait pas de point au varia. J'aurais besoin, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin, on serait rendu à la levée de la séance, le 7. Et j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant.
Diane Bilodeau.
Diane Bilodeau propose.
Bénil, seconde.
Alors, je vous remercie tout le monde pour cette séance quand même assez longue. Et je vous remercie pour votre collaboration et votre patience. Bonne soirée tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.